Bonsoir à toutes et à tous. Il est 22h à Paris, 23h à Beyrouth, l'heure de votre journal en français facile.
Aurélien Devernoy.
Et pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous.
Le Liban endeuillé par deux explosions qui ont ravagé le port de Beyrouth et ses alentours. Les dégâts sont considérables et le bilan humain s'alourdit d'heure en heure.
La France est dans une situation contrôlée mais fragile face à la pandémie de Covid-19. Selon le conseil scientifique qui aide le gouvernement, sur le terrain, les tests se multiplient. Reportage à suivre.
La déchéance de Juan Carlos, visée par une enquête pour corruption, l'ancien roi d'Espagne vivra désormais en exil. Nous reviendrons sur les soupçons qui pèsent sur lui.
Et autre soupçon, celui d'abus de monopole visant l'association des journalistes de la presse étrangère d'Hollywood. Elle organise chaque année la prestigieuse cérémonie des Golden Globes.
Le journal en français facile.
Une cinquantaine de morts et près de 2750 blessés, c'est donc le lourd bilan, encore provisoire, de la double explosion qui a secoué Beyrouth cet après-midi.
Elles ont eu lieu sur le port de la capitale libanaise et les vidéos diffusées en boucle depuis l'attestent. Leur puissance a été terrible. La seconde explosion a fait notamment voler en éclats les vitres des immeubles et magasins à des centaines de mètres à la ronde. Écoutez le témoignage de Léna, une habitante de Beyrouth, jointe par Nicolas Falaise.
J'étais dans mon bureau en fin d'après-midi et puis on entend une première explosion. Et là, on a senti quelque chose de pas normal parce que les bureaux ont bougé, vous savez. Et du coup, on a tous sursauté et quelques secondes plus tard, c'est une explosion monstrueuse, énorme. Pendant la guerre, moi j'ai vécu la guerre hein, parce que j'étais là pendant toute la guerre. Je n'ai jamais entendu une détonation aussi forte. Et du coup, le souffle m'a jeté de ma chaise sur mon bureau. Et j'étais par terre. Et puis, toutes les vitres de bureau ont explosé. Et il y avait de la fumée partout, etc. Et moi, mon bureau est à Sennelfil. C'est assez loin du port de Beyrouth, là où l'explosion a eu lieu. Tous les immeubles sont cassés, les vitres par terre. C'est la catastrophe. Donc, du coup, j'appelle ma mère. Ma mère hurle et elle commence à hurler. Elle me dit, je n'ai plus de maison. La maison est en pièces. Il n'y a plus rien du tout. Et du coup, elle fait une crise nerveuse, évidemment. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de l'intensité de l'explosion.
Léna, habitante de Beyrouth.
Et on l'a compris, hein, les dégâts sont très importants.
Des immeubles ont été totalement ravagés. Un bateau a également pris feu en mer à quelques encablures du port. L'origine des explosions est, elle, encore floue. Il pourrait s'agir de produits chimiques entreposés sur place. Le Premier ministre Hassan Diab a décrété un jour de deuil national et promis que les responsables de la catastrophe allaient, je cite, « rendre des comptes ». Le gouvernement français a annoncé ce soir être prêt à apporter son aide aux autorités libanaises. Des équipes de secours seraient notamment parties pour Beyrouth.
La France, où le nouveau coronavirus pourrait bien provoquer une deuxième vague de contamination cet automne et cet hiver.
Une hypothèse hautement probable selon le conseil scientifique Covid-19. La situation peut basculer à tout moment selon les experts qui demandent notamment la mise en place de scénarios de reconfinement dans les grandes villes du pays. Le port du masque en extérieur devrait devenir obligatoire dans les prochains jours sur les quais de la Seine à Paris, ainsi que dans les marchés de la capitale. C'est en tout cas ce que demande la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des mesures similaires ont déjà été prises à Toulouse, Nice ou encore Lille. Le nombre de personnes en réanimation est de nouveau en hausse ce mardi et plus de 1000 nouveaux cas ont été enregistrés.
Et toujours en France, la situation sanitaire s'améliore, en revanche, dans le département de la Mayenne.
Depuis plusieurs semaines, les autorités tentent de juguler, de contrôler la flambée épidémique qui touche la région, avec toujours la même devise, dépister, tracer et isoler les malades. À Laval, la plus grande ville de ce département, un minibus sillonne les rues pour tester gratuitement les habitants. Le reportage de Stéphane Genest.
Il n'est pas encore 9h du matin qu'ils sont déjà une grosse vingtaine à attendre sur le parking de la maison de quartier d'Hilard, à Laval. Olivier, 54 ans, attend depuis plus de 3 quarts d'heure. Il fait partie des premiers.
C'est l'occasion qui fait le larron, c'était à côté de chez moi. Je pense que c'est une bonne idée d'aller sur effectivement les différents quartiers de la Valois parce que des personnes ne se déplaceraient pas. Moi, je me serais déplacé, mais en l'occurrence, c'était à côté. Donc voilà, on a tous autour de soi des personnes qui peuvent être fragiles. Je crains plus pour les autres que pour moi, en fait.
Face à lui, un minibus de la protection civile. À son bord, 3 infirmières, masquées et en combinaison intégrale. Ce sont elles qui vont procéder au prélèvement. Après s'être enregistré auprès du personnel de la protection civile, Olivier peut monter dans le minibus.
Bonjour. Un petit peu de travail, hein ?
Les infirmières procèdent aux ultimes contrôles d'identité, lui demandent de se moucher et lui présentent l'écouvillon qui va permettre le prélèvement.
Ça me fait pas mal, c'est juste désagréable.
La manipulation ne dure que quelques secondes.
Et voilà, c'est pas agréable.
Olivier en sort soulagé.
Ça chatouille un peu, on va dire ça comme ça. C'est un moment à passer, qui n'est pas agréable, mais c'est pas douloureux du tout. Donc, voilà.
Olivier aura les résultats de ce test dans les prochains jours. Depuis la mise en place de cette initiative de la mairie, il y a 2 semaines, plus de 2000 Lavallois ont déjà été dépistés.
Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Stéphane Genest, Laval, RFI.
Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a effectué un déplacement à Toulon, dans le sud de la France. Déplacement durant lequel le président français a rappelé qu'il ne fallait pas baisser la garde face à la maladie. Il a également annoncé le déblocage de 160 millions d'euros destinés aux aides à domicile, jusque-là oubliés dans la distribution des primes Covid.
L'Espagne, de son côté, a enregistré près de 10 000 cas supplémentaires en quelques jours. Mais c'est un autre dossier qui occupe le pays depuis hier.
La maison royale espagnole a annoncé le départ en exil de Juan Carlos. L'ancien monarque, qui a abdiqué au profit de son fils en 2014, aurait déjà quitté le pays. Sa destination n'est pas encore connue. La République dominicaine, où plusieurs journaux l'annonçaient, a démenti l'avoir accueilli. La raison de son départ est en revanche moins mystérieuse. Une enquête pour corruption venait d'être ouverte à son encontre. Béatrice Leveillé, qu'est-ce que la justice reproche précisément à Juan Carlos?
Juan Carlos est un justiciable comme les autres. Il est traqué par la justice suisse et par la justice espagnole qui le soupçonne d'avoir perçu une rétrocommission de la part de l'Arabie Saoudite. Il aurait favorisé l'attribution de la construction d'un TGV entre La Mecque et Médine en faveur d'un consortium d'entreprises espagnoles. Le fait que son fils, l'actuel roi d'Espagne, ait renoncé à son héritage et qu'il ait supprimé il y a quelques mois son allocation annuelle de 200 000 euros ne plaide pas en faveur de son innocence. Son avocat a fait savoir qu'il resterait à la disposition de la justice, même en exil. L'image du jeune Juan Carlos, sauveur de la démocratie parlementaire espagnole, était déjà bien ternie par ses frasques et par cette partie de chasse au Botswana en 2012 en compagnie de sa maîtresse allemande en pleine crise économique. Son successeur, le roi Felipe VI, n'a de cesse depuis qu'il a été intronisé en 2014 de démontrer qu'il n'a rien à voir avec les affaires privées de son père.
Béatrice Leveillé. Aux États-Unis, la tempête tropicale Isaias continue de frapper les côtes est du pays.
Après avoir touché la Caroline du Nord, elle remonte en direction de la capitale, Washington, où d'importantes inondations sont à craindre, selon le Centre national américain des ouragans. Près de 700 000 personnes ont été privées d'électricité depuis hier soir dans les États déjà touchés.
Les États-Unis toujours avec cette polémique autour de la cérémonie des Golden Globes.
L'association des journalistes de la presse étrangère qui organise chaque année ce rendez-vous incontournable du cinéma à Hollywood est sous le feu des critiques. Elle est accusée de monopole et une plainte la visant a été déposée ce lundi, Elisabeth Le Quéré.
Voyages, tout frais payés dans des palaces aux quatre coins du monde, cadeaux et avantages en nature de toutes sortes offerts par des studios aux petits soins, accès sans précédent aux stars d'Hollywood. Voilà un aperçu de ce qui est reproché aux 87 membres de l'association des Golden Globes. Il y a pire, et c'est là où le bas blesse, ce groupe très fermé de journalistes est accusé de saboter les adhésions de nouveaux membres, provoquant une situation de monopole. C'est une candidate qui a levé le lièvre. La Norvégienne Kjersti Flah a présenté sa candidature pour être membre à 2 reprises, en 2018 et 2019. Et par 2 fois, celle-ci a été rejetée, bien que la journaliste remplisse tous les critères exigés. Rejetée car, selon elle, les membres ne veulent pas partager les avantages énormes dont ils bénéficient, une accusation violemment rejetée par l'association.
Elisabeth Le Quéré, cette information sportive, la retraite d'une légende du football. Le gardien aux 160 sélections avec l'équipe d'Espagne, Iker Casillas, a annoncé ce mardi que le foot s'était désormais terminé pour lui. Il est bientôt 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile.